Salammbô de Gustave Flaubert. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 13. Moloch. Les barbares n'avaient pas besoin d'une circonvallation du côté de l'Afrique. Elle leur appartenait. Mais pour rendre plus facile l'approche des murailles, on abattit le retranchement qui bordait le fossé. Ensuite, Mâtho divisa l'armée par grands demi-cercles de façon à envelopper mieux Carthage. Les hoplites des mercenaires furent placés au premier rang. Derrière eux, les frondeurs et les cavaliers. Tout au fond, les bagages, les chariots, les chevaux. En deçà de cette multitude, à 300 pas des tours, se hérissaient les machines. Sous la variété infinie de leurs appellations, qui changèrent plusieurs fois dans le cours des siècles, elles pouvaient se réduire à deux systèmes, les unes agissant comme des frondes, les autres comme des arcs. Les premières, les catapultes, se composaient d'un châssis carré avec deux montants verticaux et une barre horizontale. À sa partie antérieure, un cylindre, muni de câbles, retenait un gros timon portant une cuillère pour recevoir les projectiles. La base en était prise dans un écheveau de fil tordu et, quand on lâchait les cordes, il se relevait et venait frapper contre la barre, ce qui, l'arrêtant par une secousse, multipliait sa vigueur. Les secondes offraient un mécanisme plus compliqué. Sur une petite colonne, une traverse était fixée par son milieu où aboutissait, à angle droit, une espèce de canal. Aux extrémités de la traverse s'élevaient deux chapiteaux qui contenaient un entortillage de crins. Deux poutrelles s'y trouvaient prises pour maintenir les bouts d'une corde que l'on amenait jusqu'au bas du canal, sur une tablette de bronze. Par un ressort, cette plaque de métal se détachait et, glissant sur des rainures, poussait les flèches. Les catapultes s'appelaient également des onagres, comme les ânes sauvages qui lancent des cailloux avec leurs pieds. Et les balistes des scorpions, à cause d'un crochet dressé sur la tablette et qui, s'abaissant d'un coup de poing, faisait partir le ressort. Leur construction exigeait de savants calculs. Leur bois devait être choisi dans les essences les plus dures. Leurs engrenages, tous d'airain. Elles se bandaient avec des leviers, des moufles, des cabestans ou des tympans. De forts pivots variaient la direction de leurs tirs. Des cylindres les faisaient s'avancer et les plus considérables, que l'on apportait pièce à pièce, étaient remontés en face de l'ennemi. Spendius disposa les trois grandes catapultes vers les trois angles principaux. Devant chaque porte, il plaça un bélier, devant chaque tour une baliste, et des carreaux balistes circuleraient par derrière. Mais il fallait les garantir contre les feux des assiégés et combler d'abord le fossé qui les séparait des murailles. On avança des galeries en claies de jonc vert et des cintres en chêne, pareils à d'énormes boucliers glissant sur trois roues. De petites cabanes couvertes de peaux fraîches et rembourrées de varech abritaient les travailleurs. Les catapultes et les balistes furent défendus par des rideaux de cordage que l'on avait trempés dans du vinaigre pour les rendre incombustibles. Les femmes et les enfants allaient prendre des cailloux sur la grève, ramassaient de la terre avec leurs mains et la portaient aux soldats. Les Carthaginois se préparaient aussi. Hamilcar les avait bien vite rassurés en déclarant qu'il restait de l'eau dans les citernes pour 123 jours. Cette affirmation, sa présence au milieu d'eux et celle du Zaïmph surtout, leur donnèrent bon espoir. Carthage se releva de son accablement. Ceux qui n'étaient pas d'origine cananéenne furent emportés par la passion des autres. On arma les esclaves, on vida les arsenaux. Les citoyens eurent chacun leur poste et leur emploi. 1200 hommes survivaient des transfuges. Le suffète les fit tous capitaines. Et les charpentiers, les armuriers, les forgerons et les orfèvres furent préposés aux machines. Les Carthaginois en avaient gardé quelques-unes, malgré les conditions de la paix romaine. On les répara. Ils s'entendaient à ces ouvrages. Les deux côtés, septentrional et oriental, défendus par la mer et par le golfe, restaient inaccessibles. Sur la muraille, faisant face aux barbares, on monta des troncs d'arbres, des meules de moulins, des vases pleins de soufre, des cuves pleines d'huile, et l'on bâtit des fourneaux. On entassa des pierres sur la plateforme des tours, et les maisons qui touchaient immédiatement au rempart furent bourrées avec du sable pour l'affermir et augmenter son épaisseur. Devant ces dispositions, les barbares s'irritèrent. Ils voulurent combattre tout de suite. Le poids qu'ils mirent dans les catapultes était d'une pesanteur si exorbitante que les timons se rompirent. L'attaque fut retardée. Enfin, le 13e jour du mois de Chabar, au soleil levant, on entendit contre la porte de Khamon un grand coup. 75 soldats tiraient des cordes, disposées à la base d'une poutre gigantesque, horizontalement suspendue par des chaînes descendant d'une potence, et une tête de bélier, tout en airain, la terminait. On l'avait emmaillotée de peau de bœuf. Des bracelets en fer la cerclaient de place en place. Elle était 3 fois grosse comme le corps d'un homme, longue de 120 coudées, et, sous la foule des bras nus la poussant et la ramenant, elle avançait et reculait avec une oscillation régulière. Les autres béliers devant les autres portes commencèrent à se mouvoir. Dans les roues creuses des tympans, on aperçut des hommes qui montaient d'échelon en échelon. Les poulies, les chapiteaux grincèrent, les rideaux de cordage s'abattirent, et des volées de pierres et des volées de flèches s'élancèrent à la fois. Tous les fondeurs éparpillés couraient. Quelques-uns s'approchaient du rempart, en cachant sous leurs boucliers des pots de résine. Puis ils les lançaient à tour de bras. Cette grêle de balles, de dards et de feu passait par-dessus les premiers rangs et faisait une courbe qui remontait derrière les murs. Mais à leur sommet, de longues grues à mâter les vaisseaux se dressèrent, et il en descendit de ces pinces énormes qui se terminaient par 2 demi-cercles dentelés à l'intérieur. Elles mordirent les béliers, les soldats se cramponnant à la poutre tiraient en arrière, les Carthaginois allaient pour la faire monter, et l'engagement se prolongea jusqu'au soir. Quand les mercenaires le lendemain reprirent leur besogne, le haut des murailles se trouvait entièrement tapissé par des balles de coton, des toiles, des coussins. Les créneaux étaient bouchés avec des nattes, et, sur le rempart, entre les grues, on distinguait un alignement de fourches et de tranchoirs, emmanchés à des bâtons. Aussitôt, une résistance furieuse commença. Des troncs d'arbres, tenus par des câbles, tombaient et retombaient alternativement en battant les béliers. Des crampons, lancés par des balistes, arrachaient le toit des cabanes. Et, de la plateforme des tours, des ruisseaux de silex et de galets se déversaient. Enfin, les béliers rompirent la porte de Khamon et la porte Tagaste. Mais les Carthaginois avaient entassé à l'intérieur une telle abondance de matériaux que leurs battants ne s'ouvrirent pas. Ils restèrent debout. Alors, on poussa contre les murailles des tarières qui, s'appliquant aux joints des blocs, les descelleraient. Les machines furent mieux gouvernées. Leurs servants, répartis par escouades, du matin au soir, elles fonctionnaient sans s'interrompre avec la monotone précision d'un métier de tisserand. Spendius ne se fatiguait pas de les conduire. C'était lui-même qui bandait les échevaux des balistes. Pour qu'il y eût dans leurs tensions jumelles une parité complète, on serrait leurs cordes en frappant tour à tour de droite et de gauche jusqu'au moment où les deux côtés rendaient un son égal. Spendius montait sur leurs membrures. Avec le bout de son pied, il les battait tout doucement et il tendait l'oreille comme un musicien qui accorde une lyre. Puis, quand le timon de la catapulte se relevait, quand la colonne de la baliste tremblait à la secousse du ressort, que les pierres s'élançaient en rayons et que les dards couraient en ruisseaux, il se penchait le corps tout entier et jetait ses bras dans l'air comme pour les suivre. Les soldats, admirant son adresse, exécutaient ses ordres. Dans la gaieté de leur travail, ils débitaient des plaisanteries sur le nom des machines. Ainsi, les tenailles à prendre les béliers s'appelant des loups, et les galaxies couvertes de treilles, on était des agneaux, on allait faire la vendange, et, en armant leurs pièces, ils disaient aux onagres « Allons, rubien !» et aux scorpions « Traverse-les jusqu'au cœur !» Ces facéties, toujours les mêmes, soutenaient leur courage. Cependant, les machines ne démolissaient point le rempart. Il était formé par 2 murailles et tout rempli de terre. Elles abattaient leur partie supérieure, mais les assiégés, chaque fois, les relevaient. Mato ordonna de construire des tours en bois qui devaient être aussi hautes que les tours de pierre. On jeta dans le fossé du gazon, des pieux, des galets et des chariots avec leurs roues afin de l'emplir plus vite. Avant qu'il fût comblé, l'immense foule des barbares ondula sur la plaine d'un seul mouvement et vint battre le pied des murs comme une mer débordée. On avança les échelles de cordes, les échelles droites et les sambucs, c'est-à-dire 2 mâts d'où s'abaissait par des palans une série de bambous que terminait un pont immobile. Elles formaient de nombreuses lignes droites appuyées contre le mur. Et les mercenaires, à la file les uns des autres, montaient en tenant leurs armes à la main. Pas un Carthaginois ne se montrait. Déjà, il touchait aux deux tiers du rempart. Les créneaux s'ouvrirent en vomissant comme des gueules de dragon des feux et de la fumée. Le sable s'éparpillait, entrait par le joint des armures, le pétrole s'attachait aux vêtements, le plomb liquide sautillait sur les casques, faisait des trous dans les chairs. Une pluie d'étincelles s'éclaboussait contre les visages, et des orbites sans yeux semblaient pleurer des larmes grosses comme des amandes. Des hommes, tout jaunes d'huile, brûlaient par la chevelure. Ils se mettaient à courir, enflammaient les autres, on les étouffait en leur jetant de loin, sur la face, des manteaux trempés de sang. Quelques-uns, qui n'avaient pas de blessures, restaient immobiles, plus raides que des pieux, la bouche ouverte et les deux bras écartés. L'assaut, pendant plusieurs jours de suite, recommença. Les mercenaires espérant triompher par un excès de force et d'audace. Quelquefois, un homme sur les épaules d'un autre enfonçait une fiche entre les pierres, puis s'en servait comme d'un échelon pour atteindre au-delà, en plaçait une seconde, une troisième, et, protégé par le bord des créneaux, dépassant la muraille, peu à peu, il s'élevait ainsi, mais toujours à une certaine hauteur, il retombait. Le grand fossé trop plein débordait. Sous les pas des vivants, les blessés pêle-mêle s'entassaient avec les cadavres et les moribonds. Au milieu des entrailles ouvertes, des cervelles épandues et des flaques de sang, les troncs calcinés faisaient des taches noires, et des bras et des jambes à moitié sortis d'un monceau se tenaient tout debout comme des échalas dans un vignoble incendié. Les échelles se trouvant insuffisantes, on employa des tolénones, instruments composés d'une longue poutre établie transversalement sur une autre, et portant à son extrémité une corbeille quadrangulaire où 30 fantassins pouvaient se tenir avec leurs armes. Mato voulut monter dans la première qui fut prête. Spendius l'arrêta. Des hommes se courbèrent sur un moulinet, la grande poutre se leva, devint horizontale, se dressa presque verticalement et, trop chargée par le bout, elle pliait comme un immense roseau. Les soldats, cachés jusqu'au menton, se tassaient. On n'apercevait que les plumes des casques. Enfin, quand elle fut à 50 coudées dans l'air, elle tourna de droite et de gauche plusieurs fois, puis s'abaissa. Et comme par un bras de géant, qui tiendrait sur sa main une cohorte de pygmées, elle déposa, au bord du mur, la corbeille pleine d'hommes. Ils sautèrent dans la foule, et jamais ils ne revinrent. Tous les autres tolénones furent bien vite disposés, mais il en aurait fallu 100 fois davantage pour prendre la ville. On les utilisa d'une façon meurtrière. Des archers éthiopiens se balançaient dans les corbeilles. Puis, les câbles étant assujettis, ils restaient suspendus et tiraient des flèches empoisonnées. Les 50 tolénones, dominant les créneaux, entouraient ainsi Carthage comme de monstrueux vautours. Et les nègres riaient de voir les gardes sur les remparts mourir avec des convulsions atroces. Hamilcar y envoya des hoplites. Il leur faisait boire chaque matin le jus de certaines herbes qui les gardaient du poison. Un soir, par un temps obscur, il embarqua les meilleurs de ses soldats sur des gabarres, des planches, et, tournant à la droite du port, il vint débarquer à la Ténia. Puis, ils avancèrent jusqu'aux premières lignes des barbares, et, les prenant par le flanc, ils en firent un grand carnage. Des hommes suspendus à des cordes descendaient la nuit du haut des murs, avec des torches à la main, brûlaient les ouvrages des mercenaires, et remontaient. Mato était acharné. Chaque obstacle renforçait sa colère. Il en arrivait à des choses terribles et extravagantes. Il convoqua Salammbô, mentalement, à un rendez-vous. Puis il l'attendit. Elle ne vint pas. Cela lui parut une trahison nouvelle. Et désormais, il l'exécra. S'il avait vu son cadavre, il se serait peut-être en allé. Il doubla les avant-postes. Il planta des fourches au bas du rempart. Il enfouit des chausse-trappes dans la terre. Et il commanda aux Libyens de lui apporter toute une forêt pour y mettre le feu et brûler Carthage comme une tanière de renard. Spendius s'obstinait au siège. Il cherchait à inventer des machines épouvantables et comme jamais on en avait construit. Les autres barbares, campés au loin sur l'isthme, s'ébahissaient de ses lenteurs. Ils murmuraient, on les lâcha. Alors, ils se précipitèrent avec leurs coutelas et leurs javelots dont ils battaient les portes. Mais la nudité de leur corps, facilitant leurs blessures, les Carthaginois les massacraient abondamment, et les mercenaires s'en réjouirent, sans doute par jalousie du pillage. Il en résulta des querelles, des combats entre eux, puis, la campagne étant ravagée, bientôt on s'arracha les vivres. Ils se décourageaient. Des hordes nombreuses s'en allèrent. La foule était si grande qu'il n'y parut pas. Les meilleurs tentèrent de creuser des mines. Le terrain mal soutenu s'éboula. Ils les recommencèrent en d'autres places. Hamilcar devinait toujours leur direction en appliquant son oreille contre un bouclier de bronze. Il perça des contre-mines sous le chemin que devaient parcourir les tours de bois. Quand on voulut les pousser, elles s'enfoncèrent dans des trous. Enfin, tous reconnurent que la ville était imprenable tant que l'on n'aurait pas élevé jusqu'à la hauteur des murailles une longue terrasse qui permettrait de combattre sur le même niveau. On en paverait le sommet pour faire rouler dessus les machines. Alors, il serait bien impossible à Carthage de résister. Elle commençait à souffrir de la soif. L'eau, qui valait au début du siège 2 késitas le bat, se vendait maintenant 1 shekel d'argent. Les provisions de viande et de blé s'épuisaient aussi. On avait peur de la faim. Quelques-uns même parlaient de bouches inutiles, ce qui effrayait tout le monde. Depuis la place de Khamon jusqu'au temple de Melkart, des cadavres encombraient les rues. Et comme on était à la fin de l'été, de grosses mouches noires harcelaient les combattants. Des vieillards transportaient les blessés et les gens dévots continuaient les funérailles fictives de leurs proches et de leurs amis, défunts au loin pendant la guerre. Des statues de cire avec des cheveux et des vêtements s'étalaient en travers des portes. Elles se fondaient à la chaleur des cierges brûlant près d'elles. La peinture coulait sur leurs épaules et des pleurs ruisselaient sur la face des vivants qui psalmodiaient des chansons lugubres. La foule, pendant ce temps-là, courait. Des bandes armées passaient. Les capitaines criaient des ordres, et l'on entendait toujours le heurt des béliers qui battaient le rempart. La température devint si lourde que les corps, se gonflant, ne pouvaient plus entrer dans les cercueils. On les brûlait au milieu des cours, mais les feux, trop à l'étroit, incendiaient les murailles voisines, et de longues flammes tout à coup s'échappaient des maisons comme du sang qui jaillit d'une artère. Ainsi Moloch possédait Carthage. Il étreignait les remparts, il se roulait dans les rues, il dévorait jusqu'aux cadavres. Des hommes qui portaient en signe de désespoir des manteaux faits de haillons ramassés s'établirent au coin des carrefours. Ils déclamaient contre les anciens, contre Hamilcar, prédisaient au peuple une ruine entière et l'engageaient à tout détruire et à tout se permettre. Les plus dangereux étaient les buveurs de Jusquiam. Dans leur crise, ils se croyaient des bêtes féroces et sautaient sur les passants qu'ils déchiraient. Des attroupements se faisaient autour d'eux. On en oubliait la défense de Carthage. Le suffète imagina d'en payer d'autres pour soutenir sa politique. Afin de retenir dans la ville le génie des dieux, on avait couvert de chaînes leurs simulacres. On posa des voiles noires sur les patakès et des cilices autour des autels. On tâchait d'exciter l'orgueil et la jalousie des Baals en leur chantant à l'oreille. « Tu vas te laisser vaincre. Les autres sont plus forts, peut-être. Montre-toi, aide-nous, afin que les peuples ne disent pas. Où sont maintenant leurs dieux ?» Une anxiété permanente agitait les collèges des pontifes. Ceux de la Rabetna, surtout, avaient peur, le rétablissement du Zaïmph n'ayant pas servi. Ils se tenaient enfermés dans la 3e enceinte, inexpugnables comme une forteresse. Un seul d'entre eux se hasardait à sortir, le grand prêtre Shaabarim. Il venait chez Salambo. Mais il restait tout silencieux, la contemplant, les prunelles fixes. Ou bien il prodiguait les paroles, et les reproches qu'il lui faisait étaient plus durs que jamais. Par une contradiction inconcevable, il ne pardonnait pas à la jeune fille d'avoir suivi ses ordres. Shaabarim avait tout deviné, et l'obsession de cette idée avivait les jalousies de son impuissance. Il l'accusait d'être la cause de la guerre. Mato, à l'en croire, assiégeait Carthage pour reprendre le Zaïmph. Et il déversait des imprécations et des ironies sur ce barbare qui prétendait posséder des choses saintes. Ce n'était pas cela, pourtant, que le prêtre voulait dire. Mais, à présent, Salambo n'éprouvait pour lui aucune terreur. Les angoisses dont elle souffrait autrefois l'avaient abandonnée. Une tranquillité singulière l'occupait. Ses regards, moins errants, brillaient d'une flamme limpide. Cependant, le python était redevenu malade. Et comme Salammbô paraissait au contraire se guérir, la vieille Thaanar s'en réjouissait, convaincue qu'il prenait par ce dépérissement la langueur de sa maîtresse. Un matin, elle le trouva derrière le lit de peau de bœuf, tout enroulé sur lui-même, plus froid qu'un marbre, et la tête disparaissant sous un amas de verre. À ses cris, Salammbô survint. Elle le retourna quelque temps avec le bout de sa sandale, et l'esclave fut ébahi de son insensibilité. La fille d'Hamilcar ne prolongeait plus ses jeûnes avec tant de ferveur. Elle passait des journées au haut de sa terrasse, les deux coudes contre la balustrade, s'amusant à regarder devant elle. Le sommet des murailles au bout de la ville découpait sur le ciel des zigzags inégaux, et les lances des sentinelles y faisaient, tout du long, comme une bordure d'épis. Elle apercevait au-delà, entre les tours, les manœuvres des barbares. Les jours que le siège était interrompu, elle pouvait même distinguer leurs occupations. Ils raccommodaient leurs armes, se graissaient la chevelure, ou bien lavaient dans la mer leurs bras sanglants. Leurs tentes étaient closes, les bêtes de somme mangeaient, et, au loin, les faux des chars, tous rangés en demi-cercle, semblaient un cimetière d'argent étendu à la base des monts. Les discours de Shahbarim revenaient à sa mémoire. Elle attendait son fiancé, Narhavas. Elle aurait voulu, malgré sa haine, revoir Mato. De tous les Carthaginois, elle était la seule personne, peut-être, qui lui eût parlé sans peur. Souvent, son père arrivait dans sa chambre. Il s'asseyait en haletant sur les coussins et la considérait d'un air presque attendri, comme s'il eût trouvé dans ce spectacle un délassement à ses fatigues. Il l'interrogeait quelquefois sur son voyage au camp des mercenaires. Il lui demanda même si personne, par hasard, ne l'y avait poussé, et d'un signe de tête, elle répondit que non, tant Salammbô était fier d'avoir sauvé le Zaïmph. Mais le suffète revenait toujours à Mato sous prétexte de renseignements militaires. Il ne comprenait rien à l'emploi des heures qu'elle avait passées dans la tente. En effet, Salammbô ne parlait pas de Giscon, car les mots ayant par eux-mêmes un pouvoir effectif, les malédictions que l'on rapportait à quelqu'un pouvaient se retourner contre lui. Et elle taisait son envie d'assassinat, de peur d'être blâmée de n'y avoir point cédé. Elle disait que le Shalishim paraissait furieux, qu'il avait crié beaucoup, puis qu'il s'était endormi. Salammbô n'en racontait pas davantage, par honte, peut-être, ou bien par un excès de candeur faisant qu'elle n'attachait guère d'importance au baiser du soldat. Tout cela, du reste, flottait dans sa tête, mélancolique et brumeux, comme le souvenir d'un rêve accablant. Et elle n'aurait su de quelle manière, par quel discours l'exprimer. Un soir qu'ils se trouvaient assis l'un en face de l'autre, Thaanar, tout effaré, survint. Un vieillard avec un enfant était là, dans les cours, et voulait voir le suffète. Hamilcar pâlit, puis répliqua vivement. « Qu'il monte !» Iddibal entra sans se prosterner. Il tenait par la main un jeune garçon couvert d'un manteau de poils de bouc, et aussitôt relevant le capuchon qui abritait sa figure. « Le voilà, maître. Prends-le. » Le suffète et l'esclave s'enfoncèrent dans un coin de la chambre. L'enfant était resté au milieu, tout debout, et d'un regard plus attentif qu'étonné, il parcourait le plafond, les meubles, les colliers de perles traînant sur les draperies de pourpre, et cette majestueuse jeune femme inclinée vers lui. Il avait 10 ans, peut-être, et n'était pas plus haut qu'un glaive romain. Ses cheveux crépus ombrageaient son front bombé. On aurait dit que ses prunelles cherchaient des espaces. Les narines de son nez mince palpitaient largement. Sur toute sa personne s'étalait l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Quand il eut rejeté son manteau trop lourd, il resta revêtu d'une peau de lynx attachée autour de sa taille, et il appuyait résolument sur les dalles ses petits pieds nus tout blancs de poussière. Mais, sans doute, il devina que l'on agitait des choses importantes, car il se tenait immobile, une main derrière le dos et le menton baissé avec un doigt dans la bouche. Enfin, Hamilcar, d'un signe, attira Salammbô et lui dit à voix basse. « Tu le garderas chez toi, entends-tu ? Il faut que personne, même de la maison, ne connaisse son existence. » Puis, derrière la porte, il demanda encore une fois à Idibal s'il était bien sûr qu'on ne les eût pas remarqués. « Non, » fit l'esclave, « les rues étaient vides. » La guerre emplissant toutes les provinces, il avait eu peur pour le fils de son maître. Alors, ne sachant où le cacher, il était venu le long des côtes, sur une chaloupe, et depuis 3 jours Idibal louvoyait dans le golfe en observant les remparts. Enfin, ce soir-là, comme les alentours de Camon semblaient déserts, il avait franchi la passe lestement et débarqué près de l'arsenal, l'entrée du port étant libre. Mais bientôt les barbares établirent en face un immense radeau pour empêcher les Carthaginois d'en sortir. Ils relevaient les tours de bois et, en même temps, la terrasse montait. Les communications avec le dehors étant interceptées, une famine intolérable commença. On tua tous les chiens, tous les mulets, tous les ânes, puis les 15 éléphants que le suffète avait ramenés. Les lions du temple de Moloch étaient devenus furieux et les hiérodules n'osaient plus s'en approcher. On les nourrit d'abord avec les blessés des barbares. Ensuite, on leur jeta des cadavres encore tièdes. Ils les refusèrent et tous moururent. Au crépuscule, des gens erraient le long des vieilles enceintes et cueillaient entre les pierres des herbes et des fleurs qu'ils faisaient bouillir dans du vin. Le vin coûtait moins cher que l'eau. D'autres se glissaient jusqu'aux avant-postes de l'ennemi et venaient sous les tentes voler de la nourriture. Les barbares, pris de stupéfaction, quelquefois les laissaient s'en retourner. Enfin, un jour arriva où les anciens résolurent d'égorger, entre eux, les chevaux d'Eshmoun. C'étaient des bêtes saintes, dont les pontifes tressaient les crinières avec des rubans d'or, et qui signifiaient par leur existence le mouvement du soleil, l'idée du feu sous la forme la plus haute. Leurs chairs, coupées en portions égales, furent enfouies derrière l'autel. Puis, tous les soirs, alléguant quelques dévotions, les anciens montaient vers le temple, se régalaient en cachette, puis ils remportaient sur leur tunique un morceau pour leurs enfants. Dans les quartiers déserts, loin des murs, les habitants moins misérables, par peur des autres, s'étaient barricadés. Les pierres des catapultes et les démolitions ordonnées pour la défense avaient accumulé des tas de ruines au milieu des rues. Aux heures les plus tranquilles, tout à coup, des masses de peuple se précipitaient en criant. Et du haut de l'acropole, les incendies faisaient comme des haillons de pourpre dispersés sur les terrasses et que le vent tordait. Les 3 grandes catapultes, malgré tous ces travaux, ne s'arrêtaient pas. Leur ravage était extraordinaire. Ainsi, la tête d'un homme alla rebondir sur le fronton des Sissites. Dans la rue de Kinisdo, une femme qui accouchait fut écrasée par un bloc de marbre, et son enfant, avec le lit, emporté jusqu'au carrefour de Sinazine, où l'on retrouva la couverture. Ce qu'il y avait de plus irritant, c'étaient les balles des frondeurs. Elle tombait sur les toits, dans les jardins et au milieu des cours, tandis que l'on mangeait attablé devant un maigre repas et le cœur gros de soupirs. Ces atroces projectiles portaient des lettres gravées qui s'imprimaient dans les chairs, et sur les cadavres, on lisait des injures, telles que pourceau, chacal, vermine, et parfois des plaisanteries. Attrapé, ou je l'ai bien mérité. La partie du rempart qui s'étendait depuis l'angle des ports jusqu'à la hauteur des citernes fut enfoncée. Alors les gens de Malka se trouvèrent pris entre la vieille enceinte de Birsa, par derrière, et les barbares par devant. Mais on avait assez que d'épaissir la muraille et de la rendre le plus haut possible sans s'occuper d'eux. On les abandonna, tous périrent, et bien qu'ils fussent haïs généralement, on en conçut pour Hamilcar une grande horreur. Le lendemain, il ouvrit les fosses où il gardait du blé. Ses intendants le donnèrent au peuple. Pendant 3 jours, on se gorgea. La soif n'en devint que plus intolérable. Et toujours, ils voyaient devant eux la longue cascade que faisait en tombant l'eau claire de l'aqueduc. Sous les rayons du soleil, une vapeur fine remontait de sa base avec un arc-en-ciel à côté et un petit ruisseau formant des courbes sur la plage se déversait dans le golfe. Hamilcar ne faiblissait pas. Il comptait sur un événement, sur quelque chose de décisif, d'extraordinaire. Ses propres esclaves arrachèrent les lames d'argent du temple de Melkart, on tira du port 4 longs bateaux, avec des cabestans, on les amena jusqu'au bas des Mappales, le mur qui donnait sur le rivage fut troué, et ils partirent pour les Gaules, afin d'y acheter à n'importe quel prix des mercenaires. Cependant, Hamilcar se désolait de ne pouvoir communiquer avec le roi des Numides, car il le savait derrière les barbares et prêt à tomber sur eux. Mais Narravas, trop faible, n'allait pas se risquer seul. Et le suffète fit rehausser le rempart de 12 palmes, entasser dans l'acropole tout le matériel des arsenaux et encore une fois réparer les machines. On se servait pour les entortillages des catapultes de tendons pris au cou des taureaux ou bien aux jarrets des cerfs. Cependant, il n'existait dans Carthage ni cerfs ni taureaux. Hamilcar demanda aux anciens les cheveux de leurs femmes. Toutes les sacrifièrent. La quantité ne fut pas suffisante. On avait dans les bâtiments des Sicites 1200 esclaves nubiles, de celles que l'on destinait aux prostitutions de la Grèce et de l'Italie, et leurs cheveux, rendus élastiques par l'usage des onguents, se trouvaient merveilleux pour les machines de guerre. Mais la perte plus tard serait trop considérable. Donc, il fut décidé qu'on choisirait parmi les épouses des plébéiens les plus belles chevelures, sans aucun souci des besoins de la patrie. Elles crièrent en désespéré quand les serviteurs des sangs vinrent, avec des ciseaux, mettre la main sur elles. Un redoublement de fureur animait les barbares. On les voyait au loin prendre la graisse des morts pour huiler leurs machines, et d'autres en arracher les ongles qu'ils cousaient bout à bout afin de se faire des cuirasses. Ils imaginèrent de mettre dans les catapultes des vases pleins de serpents apportés par les nègres. Les pots d'argile se cassaient sur les dalles, les serpents couraient, semblaient pulluler, et tant qu'ils étaient nombreux, sortirent des murs naturellement. Puis, les barbares, mécontents de leur invention, la perfectionnèrent. Ils lançaient toutes sortes d'immondices, des excréments humains, des morceaux de charogne, des cadavres. La peste reparut. Les dents des Carthaginois leur tombaient de la bouche, et ils avaient les gencives décolorées comme celles des chameaux après un voyage trop long. Les machines furent dressées sur la terrasse, bien qu'elles n'atteignît pas encore partout à la hauteur du rempart. Devant les 23 tours des fortifications se dressaient 23 autres tours de bois. Tous les tolénones étaient remontés, et au milieu, un peu plus en arrière, apparaissait la formidable hélépole de Démétrius Polyorcète, que Spendius enfin avait reconstruite. Pyramidale comme le phare d'Alexandrie, elle était haute de 130 coudées et large de 23, avec 9 étages allant tous en diminuant vers le sommet, et qui étaient défendus par des écailles d'airain, percées de portes nombreuses, remplies de soldats. Sur la plateforme supérieure se dressait une catapulte flanquée de 2 balistes. Alors Hamilcar fit planter des croix pour ceux qui parleraient de se rendre. Les femmes même furent embrigadées. Ils couchaient dans les rues et l'on attendait plein d'angoisse. Puis un matin, un peu avant le lever du soleil, c'était le 7e jour du mois de Nissan, ils entendirent un grand cri poussé par tous les barbares à la fois. Les trompettes à tubes de plomb ronflaient, les grandes cornes paphlagoniennes mugissaient comme des taureaux. Tous se levèrent et coururent au rempart. Une forêt de lances, de piques et d'épées se hérissait à sa base. Elle sauta contre les murailles, les échelles s'y accrochèrent, et dans la baie des créneaux, des têtes de barbares parurent. Des poutres, soutenues par de longues files d'hommes, battaient les portes, et, aux endroits où la terrasse manquait, les mercenaires, pour démolir le mur, arrivaient en cohorte serrée, la première ligne se tenant accroupie, la seconde pliant le jarret, et les autres successivement se dressaient jusqu'au dernier qui restait tout droit. Tandis qu'ailleurs, pour monter dessus, les plus hauts s'avançaient en tête, les plus bas à la queue, et tous, du bras gauche, appuyaient sur leurs casques leurs boucliers en les réunissant par le bord si étroitement qu'on aurait dit un assemblage de grandes tortues. Les projectiles glissaient sur ces masses obliques. Les Carthaginois jetaient des meules de moulins, des pilons, des cuves, des tonneaux, des lits, tout ce qui pouvait faire un poids et assommer. Quelques-uns guettaient dans les embrasures avec un filet de pêcheurs, et quand arrivait le barbare, il se trouvait pris sous les mailles et se débattait comme un poisson. Ils démolissaient eux-mêmes leurs créneaux. Des pans de murs s'écroulaient en soulevant une grande poussière, et les catapultes de la terrasse, tirant les unes contre les autres, leurs pierres se heurtaient et éclataient en 1000 morceaux qui faisaient sur les combattants une large pluie. Bientôt les deux foules ne formèrent plus qu'une grosse chaîne de corps humains. Elles débordaient dans les intervalles de la terrasse et, un peu plus lâches aux deux bouts, se roulaient sans avancer perpétuellement. Ils s'étreignaient, couchés à plat ventre comme des lutteurs, on s'écrasait, les femmes penchées sur les créneaux hurlaient, on les tirait par leurs voiles, et la blancheur de leurs flancs, tout à coup découverts, brillait entre les bras des nègres, y enfonçant des poignards. Des cadavres, trop pressés dans la foule, ne tombaient pas, soutenus par les épaules de leurs compagnons, ils allaient quelques minutes, tout debout et les yeux fixes. Quelques-uns, les deux tempes traversées par une javeline, balançaient leurs têtes comme des ours. Des bouches ouvertes pour crier restaient béantes. Des mains s'envolaient, coupées. Il y eut là de grands coups, et dont parlèrent pendant longtemps ceux qui survécurent. Cependant, des flèches jaillissaient du sommet des tours de bois et des tours de pierre. Les tolénones faisaient aller rapidement leurs longues antennes, et comme les barbares avaient saccagé sous les catacombes le vieux cimetière des autochtones, ils lançaient sur les Carthaginois des dalles de tombeaux. Sous le poids des corbeilles trop lourdes, quelquefois, les câbles se coupaient, et des masses d'hommes, tous levant les bras, tombaient du haut des airs. Jusqu'au milieu du jour, les vétérans des hoplites s'étaient acharnés contre la Ténia pour pénétrer dans le port et détruire la flotte. Hamilcar fit allumer sur la toiture de Camon un feu de paille humide, et la fumée les aveuglant, ils se rabattirent à gauche et vinrent augmenter l'horrible cohue qui se poussait dans Malka. Des syntagmes, composés d'hommes robustes, choisis tout exprès, avaient enfoncé 3 portes. De hauts barrages, faits avec des planches garnies de clous, les arrêtèrent. Une 4e céda facilement. Ils s'élancèrent par-dessus en courant et refoulèrent dans une fosse où l'on avait caché des pièges. À l'angle sud-est, Autharite et ses hommes abattirent le rempart, dont la fissure était bouchée avec des bris. Le terrain par derrière montait. Ils le gravirent lestement, mais ils trouvèrent en haut une seconde muraille composée de pierres et de longues poutres étendues tout à plat et qui alternaient comme les pièces d'un échiquier. C'était une mode gauloise, adaptée par le suffète aux besoins de la situation. Les Gaulois se crurent devant une ville de leur pays. Ils attaquèrent avec mollesse et furent repoussés. Depuis la rue de Camon jusqu'au marché aux herbes, tout le chemin de ronde appartenait maintenant aux barbares, et les Samnites achevaient à coups d'épieux les moribonds. Ou bien, un pied sur le mur, ils contemplaient en bas, sous eux, les ruines fumantes et au loin la bataille qui recommençait. Les frondeurs, distribués par derrière, tiraient toujours, mais à force d'avoir servi, le ressort des frondes à carnanienne était brisé, et plusieurs, comme des pâtres, envoyaient des cailloux avec la main. Les autres lançaient des boules de plomb avec le manche d'un fouet. Zarxas, les épaules couvertes de ses longs cheveux noirs, se portait partout en bondissant et entraînait les baléares. Deux panetières étaient suspendues à ses hanches. Il y plongeait continuellement la main gauche et son bras droit tournoyait comme la roue d'un char. Mathos était d'abord retenu de combattre, pour mieux commander tous les barbares à la fois. On l'avait vu le long du golfe avec les mercenaires, près de la lagune avec les numides, sur les bords du lac entre des nègres, et du flanc de la plaine il poussait les masses de soldats qui arrivaient incessamment contre les lignes de fortification. Peu à peu, il s'était rapproché. L'odeur du sang, le spectacle du carnage et le vacarme des clairons avaient fini par lui faire bondir le cœur. Alors il était rentré dans sa tente et, jetant sa cuirasse, avait pris sa peau de lion, plus commode pour la bataille. Le mufle s'adaptait sur la tête en bordant le visage d'un cercle de crocs. Les deux pattes antérieures se croisaient sur la poitrine et celles de derrière avançaient leurs ongles jusqu'au bas de ses genoux. Il avait gardé son fort ceinturon où luisait une hache à double tranchant et avec sa grande épée dans les deux mains s'était précipité par la brèche impétueusement. Comme un émondeur qui coupe des branches de saule et qui tâche d'en abattre le plus possible afin de gagner plus d'argent, il marchait en fauchant autour de lui les Carthaginois. Ceux qui tentaient de le saisir par les flancs, il les recevait à coups de pommeau. Quand il l'attaquait en face, il les perçait. S'il fuyait, il les fendait. Deux hommes à la fois sautèrent sur son dos. Il recula d'un bond contre une porte et les écrasa. Son épée s'abaissait, se relevait. Elle éclata sur l'angle d'un mur. Alors il prit sa lourde hache, et par devant, par derrière, il éventrait les Carthaginois comme un troupeau de brebis. Il s'écartait de plus en plus. Il arriva tout seul devant la seconde enceinte, au bas de l'acropole. Les matériaux lancés du sommet encombraient les marches et débordaient par-dessus la muraille. Mato, au milieu des ruines, se retourna pour appeler ses compagnons. Il aperçut leurs aigrettes disséminées sur la multitude. Elles s'enfonçaient, ils allaient périr. Il s'élança vers eux. Alors, la vaste couronne de plumes rouges se resserrant, bientôt ils se rejoignirent et l'entourèrent. Mais des rues latérales, une foule énorme se dégorgeait. Il fut pris aux hanches, soulevé et entraîné jusqu'en dehors du rempart, dans un endroit où la terrasse était haute. Mato cria un commandement. Tous les boucliers se rabattirent sur les casques. Il sauta dessus pour s'accrocher quelque part afin de rentrer dans Carthage et, tout en brandissant la terrible hache, il courait sur les boucliers pareils à des vagues de bronze comme un dieu marin sur des flots et qui secoue son trident. Cependant, un homme en robe blanche se promenait au bord du rempart, impassible et indifférent à la mort qui l'entourait. Parfois, il étendait sa main droite contre ses yeux pour découvrir quelqu'un. Mato vint à passer sous lui. Tout à coup, ses prunelles flamboyèrent. Sa face livide se crispa. Et en levant ses deux bras maigres, il lui cria des injures. Mato ne les entendit pas, mais il sentit entrer dans son cœur un regard si cruel et furieux qu'il en poussa un rugissement. Il lança vers lui la longue hache. Des gens se jetèrent sur Shaabarim, et Mato, ne le voyant plus, tomba à la renverse épuisé. Un craquement épouvantable se rapprochait, mêlé au rythme de voix rauques qui chantaient en cadence. C'était la grande Hélépole, entourée par une foule de soldats. Ils la tiraient à deux mains, halaient avec des cordes et poussaient de l'épaule, car le talus, montant de la plaine sur la terre, bien qu'il fût extrêmement doux, se trouvait impraticable pour des machines d'un poids prodigieux. Elle avait cependant 8 roues cerclées de fer, et depuis le matin elle avançait ainsi, lentement, pareille à une montagne qui se fût élevée sur une autre. Puis il sortit de sa base un immense bélier. Le long des 3 faces regardant la ville, les portes s'abattirent, et dans l'intérieur apparurent, comme des colonnes de fer, des soldats cuirassés. On en voyait qui grimpaient et descendaient les 2 escaliers traversant ces étages. Quelques-uns attendaient pour s'élancer que les crampons des portes touchassent le mur. Au milieu de la plateforme supérieure, les écheveaux des balistes tournaient et le grand timon de la catapulte s'abaissait. Hamilcar était à ce moment-là debout sur le toit de Melkart. Il avait jugé qu'elle devait venir directement vers lui, contre l'endroit de la muraille le plus invulnérable, et à cause de cela même, dégarni de sentinelles. Depuis longtemps déjà, ses esclaves apportaient des outres sur le chemin de ronde, où ils avaient élevé avec de l'argile 2 cloisons transversales formant une sorte de bassin. L'eau coulait insensiblement sur la terrasse, et Hamilcar, chose extraordinaire, ne semblait point s'en inquiéter. Mais quand l'Hélépole fut à 30 pas environ, il commanda d'établir des planches par-dessus les rues entre les maisons, depuis les citernes jusqu'aux remparts. Et des gens à la file se passaient de main en main des casques et des amphores qu'ils vidaient continuellement. Le Carthaginois cependant s'indignait de cette eau perdue. Le bélier démolissait la muraille. Tout à coup, une fontaine s'échappa des pierres disjointes. Alors la haute masse d'airain, à 9 étages, et qui contenait et occupait plus de 3 000 soldats, commença doucement à osciller comme un navire. En effet, l'eau pénétrant la terrasse avait devant elle effondré le chemin. Ses roues s'embourbèrent. Au premier étage, entre des rideaux de cuir, la tête de Spendius apparut soufflant à pleine joue dans un cornet d'ivoire. La grande machine, comme soulevée convulsivement, avança de 10 pas peut-être, mais le terrain de plus en plus s'amollissait, la fange gagnait les essieux, et l'Hélépole s'arrêta en penchant effroyablement d'un seul côté. La catapulte roula jusqu'au bord de la plateforme, et, emportée par la charge de son timon, elle tomba, fracassant sous elle les étages inférieurs. Les soldats, debout sur les portes, glissèrent dans l'abîme, ou bien ils se retenaient à l'extrémité des longues poutres et augmentaient par leur poids l'inclinaison de l'Hélépole, qui se démembrait en craquant dans toutes ses jointures. Les autres barbares s'élancèrent pour les secourir. Ils se tassaient en foule compacte. Les Carthaginois descendirent le rempart et les assaillant par derrière, ils les tuèrent tout à leur aise. Mais les chars garnis de faux accoururent. Ils galopaient sur le contour de cette multitude. Elle remonta la muraille. La nuit survint. Peu à peu, les barbares se retirèrent. On ne voyait plus, sur la plaine, qu'une sorte de fourmillement tout noir, peut-être le golfe bleuâtre jusqu'à la lagune toute blanche, et le lac, où du sang avait coulé, s'étalait, plus loin, comme une grande mare pourpre. La terrasse était maintenant si chargée de cadavres qu'on l'aurait cru construite avec des corps humains. Au milieu se dressaient les Hélépoles couvertes d'armure, et de temps à autre des fragments énormes s'en détachaient comme les pierres d'une pyramide qui s'écroule. On distinguait sur les murailles de larges traînées faites par les ruisseaux de plomb. Une tour de bois abattue, çà et là, brûlait, et les maisons apparaissaient vaguement comme les gradins d'un amphithéâtre en ruine. De lourdes fumées montaient en roulant des étincelles qui se perdaient dans le ciel noir. Cependant, les Carthaginois, que la soif dévorait, s'étaient précipités vers les citernes. Ils en rompirent les portes. Une flaque boueuse s'étalait au fond. Que devenir à présent? D'ailleurs, les barbares étaient innombrables, et leur fatigue passée, ils recommenceraient. Le peuple, toute la nuit, délibéra par section au coin des rues. Les uns disaient qu'il fallait renvoyer les femmes, les malades et les vieillards. D'autres proposèrent d'abandonner la ville pour s'établir au loin dans une colonie. Mais les vaisseaux manquaient, et le soleil parut qu'on n'avait rien décidé. On ne se battit point ce jour-là, tous étant trop accablés. Les gens qui donnaient avaient l'air de cadavres. Alors, les Carthaginois, en réfléchissant sur la cause de leur désastre, se rappelèrent qu'ils n'avaient point expédié en Phénicie l'offrande annuelle due à Melkarth Tyrien. Et une immense terreur les prit. Les dieux, indignés contre la République, allaient sans doute poursuivre leur vengeance. On les considérait comme des maîtres cruels, que l'on apaisait avec des supplications et qui se laissaient corrompre à force de présents. Tous étaient faibles près de Moloch le dévorateur. L'existence, la chair même des hommes lui appartenait. Aussi, pour la sauver, les Carthaginois avaient coutume de lui en offrir une portion qui calmait sa fureur. On brûlait les enfants au front ou à la nuque avec des mèches de laine, et cette façon de satisfaire le Baal rapportant au prêtre beaucoup d'argent, il ne manquait pas de la recommander comme plus facile et plus douce. Mais cette fois, il s'agissait de la République elle-même. Or, tout profit devant être racheté par une perte quelconque, toute transaction se réglant d'après le besoin du plus faible et l'exigence du plus fort, il n'y avait pas de douleur trop considérable pour le dieu, puisqu'il se délectait dans les plus horribles, et que l'on était maintenant à sa discrétion. Il fallait donc l'assouvir complètement. Les exemples prouvaient que ce moyen-là contraignait le fléau à disparaître. D'ailleurs, il croyait qu'une immolation par le feu purifierait Carthage. La férocité du peuple en était d'avance alléchée. Puis, le choix devait exclusivement tomber sur les grandes familles. Les anciens s'assemblèrent. La séance fut longue. Hannon y était venu. Comme il ne pouvait plus s'asseoir, il resta couché près de la porte, à demi perdu dans les franges de la haute tapisserie. Et quand le pontife de Moloch leur demanda s'ils consentiraient à livrer leurs enfants, sa voix tout à coup éclata dans l'ombre comme le rugissement d'un génie au fond d'une caverne. Il regrettait, disait-il, de n'avoir pas à en donner de son propre sang. Et il contemplait Amilcar, en face de lui à l'autre bout de la salle. Le suffète fut tellement troublé par ce regard qu'il en baissa les yeux. Tous approuvèrent en opinant de la tête successivement, et d'après les rites, il dut répondre au grand prêtre « Oui, que cela soit ». Alors, les anciens décrétèrent le sacrifice par une périphrase traditionnelle, parce qu'il y a des choses plus gênantes à dire qu'à exécuter. La décision presque immédiatement fut connue dans Carthage. Des lamentations retentirent. Partout, on entendait les femmes crier. Leurs époux les consolaient ou les invectivaient en faisant des remontrances. Mais 3 heures après, une nouvelle plus extraordinaire se répandit. Le suffète avait trouvé des sources au bas de la falaise. On y courut. Des trous creusés dans le sable laissaient voir de l'eau, et déjà quelques-uns, étendus à plat ventre, y buvaient. Amilcar ne savait pas lui-même si c'était par un conseil des dieux ou par le vague souvenir d'une révélation que son père autrefois lui aurait faite. Mais En quittant les anciens, il était descendu sur la plage et avec ses esclaves, il s'était mis à fouir le gravier. Il donna des vêtements, des chaussures et du vin. Il donna tout le reste du blé qu'il gardait chez lui. Il fit même entrer la foule dans son palais et il ouvrit les cuisines, les magasins et toutes les chambres, celles de Salammbô exceptées. Il annonça que 6 000 mercenaires gaulois allaient venir et que le roi de Macédoine envoyait des soldats. Mais dès le second jour, les sources diminuèrent. Le soir du troisième, elles étaient complètement taries. Alors le décret des anciens circula de nouveau sur toutes les lèvres, et les prêtres de Moloch commencèrent leur besogne. Des hommes en robe noire se présentèrent dans les maisons. Beaucoup d'avance les désertaient sous le prétexte d'une affaire ou d'une friandise qu'ils allaient acheter. Les serviteurs de Moloch survenaient et prenaient les enfants. D'autres les livraient eux-mêmes, stupidement. Puis on les emmenait dans le temple de Tanit, où les prêtresses étaient chargées jusqu'au jour solennel de les amuser et de les nourrir. Ils arrivèrent chez Hamilcar tout à coup, et le trouvant dans ses jardins. « Barca, nous venons pour la chose que tu sais. Ton fils !» Ils ajoutèrent que des gens l'avaient rencontré un soir de l'autre lune au milieu des Mappales conduits par un vieillard. Il fut d'abord comme suffoqué. Mais bien vite, comprenant que toute dénégation serait vaine, Hamilcar s'inclina et il les introduisit dans la maison de commerce. Des esclaves, accourus d'un signe, en surveillaient les alentours. Il entra dans la chambre de Salammbô tout éperdu. Il saisit d'une main Hannibal, arracha de l'autre la ganse d'un vêtement qui traînait, attacha ses pieds, ses mains, en passa l'extrémité dans la bouche pour lui faire un bâillon, et il le cacha sous le lit de peau de bœuf en laissant retomber jusqu'à terre une large draperie. Ensuite, il se promena de droite et de gauche. Il levait les bras, il tournait sur lui-même, il se mordait les lèvres. Puis il resta les prunelles fixes et haletant comme s'il allait mourir. Mais il frappa 3 fois dans ses mains. Jidenem parut. « Écoute, dit-il, tu vas prendre parmi les esclaves un enfant mâle de 8 à 9 ans, avec les cheveux noirs et le front bombé. Amène-le, hâte-toi. » Bientôt, Jidenem rentra en présentant un jeune garçon. C'était un pauvre enfant à la fois maigre et bouffi. Sa peau semblait grisâtre comme l'infect haillon suspendu à ses flancs. Il baissait la tête dans ses épaules et du revers de sa main frottait ses yeux tout remplis de mouches. « Comment pourrait-on jamais le confondre avec Hannibal ? Et le temps manquait pour en choisir un autre. Hamilcar regardait Jidenem. Il avait envie de l'étrangler. « Va-t'en » cria-t-il. Le maître des esclaves s'enfuit. Donc le malheur qu'il redoutait depuis si longtemps était venu. Et il cherchait avec des efforts démesurés s'il n'y avait pas une manière, un moyen d'y échapper. Abdalonim, tout à coup, parla derrière la porte. On demandait le suffète. Les serviteurs de Moloch s'impatientaient. Hamilcar retint un cri, comme une brûlure d'un fer rouge. Et il recommença de nouveau à parcourir la chambre, tel qu'un insensé. Puis il s'affaissa au bord de la balustrade, et les coudes sur ses genoux, il serrait son front dans ses 2 poings fermés. La vasque de porphyre contenait encore un peu d'eau claire pour les ablutions de Salammbô. Malgré sa répugnance et tout son orgueil, le suffète y plongea l'enfant et, comme un marchand d'esclaves, il se mit à le laver et à le frotter avec les strigiles et la terre rouge. Il prit ensuite dans les casiers autour de la muraille 2 carrés de pourpre, lui en posa un sur la poitrine, l'autre sur le dos, et il les réunit contre ses clavicules par 2 agrafes de diamants. Il versa un parfum sur sa tête Il passa autour de son cou un collier d'électrum, et il le chaussa de sandales à talons de perles, les propres sandales de sa fille. Mais il trépignait de honte et d'irritation. Salammbô, qui s'empressait à le servir, était aussi pâle que lui. L'enfant souriait, ébloui par ses splendeurs, et même, s'enhardissant, il commençait à battre des mains et à sauter quand Hamilcar l'entraîna. Il le tenait par le bras, fortement, comme s'il avait eu peur de le perdre. Et l'enfant auquel il faisait mal pleurait un peu tout en courant près de lui. À la hauteur de l'ergastule, sous un palmier, une voix s'éleva. Une voix lamentable et suppliante, elle murmurait « Maître, oh, maître !» Hamilcar se retourna et il aperçut à ses côtés un homme d'apparence abjecte, un de ces misérables vivant au hasard dans les maisons. « Que veux-tu ? » dit le suffète. L'esclave, qui tremblait horriblement, balbutia « Je suis son père !» Hamilcar marchait toujours, l'autre le suivait, l'air incourbé, les jarrets fléchis, la tête en avant. Son visage était convulsé par une angoisse indicible. Et les sanglots qu'il retenait l'étouffaient, tant il avait envie, tout à la fois, de le questionner et de lui crier « Grâce !» Enfin, il osa le toucher d'un doigt, sur le coude, légèrement. Est-ce que tu vas le... Il n'eut pas la force d'achever. Et Hamilcar s'arrêta tout ébahi de cette douleur. Il n'avait jamais pensé, tant l'abîme les séparant l'un de l'autre se trouvait immense, qu'il pût y avoir entre eux rien de commun. Cela même lui parut une sorte d'outrage et comme un empiétement sur ses privilèges. Il répondit par un regard plus froid et plus lourd que la hache d'un bourreau. L'esclave, s'évanouissant, tomba dans la poussière à ses pieds. Hamilcar enjamba par-dessus. Les trois hommes en robe noire l'attendaient dans la grande salle, debout contre le disque de pierre. Tout de suite, il déchira ses vêtements et il se roula sur les dalles en poussant des cris aigus. « Ah, pauvre petit Hannibal ! Oh, mon fils, ma consolation, mon espoir, ma vie ! Tuez-moi aussi ! Emportez-moi ! Malheur ! Malheur !» Il se labourait la face avec ses ongles, s'arrachait les cheveux et hurlait comme les pleureuses des funérailles. « Emmenez-le donc ! Je souffre trop ! Allez-vous-en ! Tuez-moi comme lui !» Les serviteurs de Moloch s'étonnaient que le grand Hamilcar eût le cœur si faible. Ils en étaient presque attendris. On entendit un bruit de pieds nus avec un râle saccadé, pareil à la respiration d'une bête féroce qui accourt, et, sur le seuil de la troisième galerie, entre les montants d'ivoire, un homme apparut, blême, terrible, les bras écartés, il s'écria. « Mon enfant !» Hamilcar d'un bond s'était jeté sur l'esclave, et en lui couvrant la bouche de ses mains, il criait encore plus haut. « C'est le vieillard qui l'a élevé, il l'appelle mon enfant, il en deviendra fou, assez, assez !» Et chassant par les épaules les trois prêtres et leurs victimes, il sortit avec eux, et d'un grand coup de pied referma la porte derrière lui. Hamilcar tendit l'oreille pendant quelques minutes, craignant toujours de les voir revenir. Il songea ensuite à se défaire de l'esclave pour être bien sûr qu'il ne parlerait pas. Mais le péril n'était point complètement disparu, et cette mort, si les dieux s'en irritaient, pouvait se retourner contre son fils. Alors, changeant d'idée, il lui envoya par Tahannar les meilleures choses des cuisines. Un quartier de bouc, des fèves et des conserves de grenades. L'esclave, qui n'avait pas mangé depuis longtemps, se rua dessus. Ses larmes tombaient dans les plats. Hamilcar, revenu enfin près de Salammbô, dénoua les cordes d'Hannibal. L'enfant, exaspéré, le mordit à la main jusqu'au sang. Il le repoussa d'une caresse. Pour le faire se tenir paisible, Salammbô voulut l'effrayer avec Lamia, une ogresse de sirène. « Où donc est-elle » demanda-t-il. On lui conta que les brigands allaient venir pour le mettre en prison. Il reprit « Qu'ils viennent, et je les tue !» Hamilcar lui dit alors l'épouvantable vérité. Mais il s'emporta contre son père, prétendant qu'il pouvait bien anéantir tout le peuple, puisqu'il était le maître de Carthage. Enfin, épuisé d'efforts et de colère, il s'endormit d'un sommeil farouche. Il parlait en rêvant, le dos appuyé contre un coussin d'écarlate. Sa tête retombait un peu en arrière, et son petit bras écarté de son corps restait tout droit dans une attitude impérative. Quand la nuit fut noire, Hamilcar l'enleva doucement et descendit sans Flambeau l'escalier des galères. En passant par la maison de commerce, il prit une couffe de raisin avec une buire d'eau pure. L'enfant se réveilla devant la statue d'Alette dans le caveau des pierreries et il souriait comme l'autre sur le bras de son père à la lueur des clartés qui l'environnaient. Hamilcar était bien sûr qu'on ne pouvait lui prendre son fils. C'était un endroit impénétrable, communiquant avec le rivage par un souterrain que lui seul connaissait. Et en jetant les yeux alentour, il aspira une large bouffée d'air. Puis il le déposa sur un escabeau, près des boucliers d'or. Personne à présent ne le voyait. Il n'avait plus rien à observer. Alors il se soulagea. Comme une mère qui retrouve son premier-né perdu, il se jeta sur son fils. Il l'étreignait contre sa poitrine. Il riait et pleurait à la fois, l'appelait des noms les plus doux, le couvrait de baisers. Le petit Hannibal, effrayé par cette tendresse terrible, se taisait maintenant. Hamilcar s'en revint à pas muets, en tâtant les murs autour de lui, et il arriva dans la grande salle, où la lumière de la lune entrait par une des fentes du dôme. Au milieu, l'esclave, repu, dormait, couché de tout son long sur les pavés de marbre. Il le regarda et une sorte de pitié l'émut. Du bout de son cothurne, il lui avança un tapis sous la tête. Puis il releva les yeux et considéra Tanit, dont le mince croissant brillait dans le ciel, et il se sentit plus fort que les balles et plein de mépris pour eux. Les dispositions du sacrifice étaient déjà commencées. On abattit dans le temple de Moloch un pan de mur pour en tirer le dieu d'airain, sans toucher aux cendres de l'autel. Puis, dès que le soleil se montra, les hiérodules le poussèrent vers la place de Khamon. Il allait à reculons, en glissant sur des cylindres. Ses épaules dépassaient la hauteur des murailles. Du plus loin qu'il l'apercevait, les Carthaginois s'enfuyaient bien vite, car on ne pouvait contempler impunément le Baal dans l'exercice de sa colère. Une senteur d'aromates se répandit dans les rues. Tous les temples à la fois venaient de s'ouvrir. Il en sortit des tabernacles montés sur des chariots ou sur des litières que des pontifes portaient. De gros panaches de plumes se balançaient à leurs angles et des rayons s'échappaient de leurs fêtes aiguës, terminées par des boules de cristal, d'or, d'argent ou de cuivre. C'étaient les Baalim cananéens, dédoublement du Baal suprême, qui retournaient vers leurs principes pour s'humilier devant sa force et s'anéantir devant sa splendeur. Le pavillon de Melkart, en pourpre fine, abritait une flamme de pétrole. Sur celui de Khamon, couleur d'hyacinthe, se dressait un phallus d'ivoire, bordé d'un cercle de pierreries. Entre les rideaux d'Eshmoun, bleus comme l'éther, un python endormi faisait un cercle avec sa queue. Et les dieux Patakès, tenus dans les bras de leurs prêtres, semblaient de grands enfants emmaillotés, dont les talons frôlaient la terre. Ensuite, venaient toutes les formes inférieures de la divinité. Baal Samin, dieu des espaces célestes, Baal Péor, dieu des monts sacrés, Baal Zeboub, dieu de la corruption, et ceux des pays voisins et des races congénères, Liarbal de la Libye, l'Adramélec de la Chaldée, le Kijoun des Syriens, d'Erceto, à figure de vierge, rampait sur ses nageoires, et le cadavre de Tammuz était traîné au milieu d'un catafalque entre des flambeaux et des chevelures. Pour asservir les rois du firmament au soleil et empêcher que leurs influences particulières ne gênassent la sienne, on brandissait au bout de longues perches des étoiles en métal diversement coloriées. Et tous s'y trouvaient, depuis le noir Nebo, génie de Mercure, jusqu'au hideux Rahab, qui est la constellation du crocodile. Les abadirs, pierres tombées de la lune, tournaient dans des frondes en fil d'argent. De petits pains reproduisant le sexe d'une femme étaient portés sur des corbeilles par les prêtres de Cérès. D'autres amenaient leurs fétiches, leurs amulettes. Des idoles oubliées reparurent, et même on avait pris au vaisseau leurs symboles mystiques, comme si Carthage eût voulu se recueillir tout entière dans une pensée de mort et de désolation. Devant chacun des tabernacles, un homme tenait en équilibre sur sa tête un large vase où fumait de l'encens. Des nuages çà et là planaient, et l'on distinguait dans ces grosses vapeurs les tentures, les pendeloques et les broderies des pavillons sacrés. Ils avançaient lentement, à cause de leur poids énorme. Les cieux des chars quelquefois s'accrochaient dans les rues, alors les dévots profitaient de l'occasion pour toucher les Baalim avec leurs vêtements, qu'ils gardaient ensuite comme des choses saintes. La statue d'airain continuait à s'avancer vers la place de Khamon. Les riches, portant des sceptres à pommes d'émeraude, partirent du fond de Mégara. Les anciens, coiffés de diadèmes, s'étaient assemblés dans Kinisdo. Et les maîtres des finances, les gouverneurs des provinces, les marchands, les soldats, les matelots, et la horde nombreuse, employée aux funérailles, tous, avec les insignes de leur magistrature ou les instruments de leur métier, se dirigeaient vers les tabernacles qui descendaient de l'acropole entre les collèges des pontifes. Par déférence pour Moloch, ils s'étaient ornés de leurs joyaux les plus splendides. Des diamants étincelaient sur les vêtements noirs, mais les anneaux, trop larges, tombaient des mains amaigries. Et rien n'était lugubre comme cette foule silencieuse où les pendants d'oreilles battaient contre des faces pâles, où les tiares d'or serraient des fronts crispés par un désespoir atroce. Enfin le Baal arriva juste au milieu de la place. Ses pontifes, avec des treillages, disposèrent une enceinte pour écarter la multitude, et ils restèrent à ses pieds autour de lui. Les prêtres de Khamon en robe de laine fauve s'alignèrent devant leur temple, sous les colonnes du portique. Ceux d'Eshmoun, en manteau de lin, avec des colliers à tête de koukoufa et des tiares pointues, s'établirent sur les marches de l'acropole. Les prêtres de Melkart, en tunique violette, prirent pour eux le côté de l'Occident. Les prêtres des abadirs, serrés dans des bandes d'étoffes phrygiennes, se placèrent à l'Orient. Et l'on rangea sur le côté du Midi avec les nécromanciens tout couverts de tatouages, les hurleurs en manteaux rapiécés, les desservants des patakès et les yidonim qui, pour connaître l'avenir, se mettaient dans la bouche un os de mort. Les prêtres de Cérès, habillés de robes bleues, s'étaient arrêtés prudemment dans la rue de Sateb et psalmodiaient à voix basse un thesmophorion en dialecte mégarien. De temps en temps, il arrivait des files d'hommes complètement nus, les bras écartés et tous se tenant par les épaules. Ils tiraient des profondeurs de leur poitrine une intonation rauque et caverneuse. Leurs prunelles, tendues vers le colosse, brillaient dans la poussière, et ils se balançaient le corps à intervalles égaux, tous à la fois, comme ébranlés par un seul mouvement. Ils étaient si furieux que pour rétablir l'ordre, les hiérodules, à coups de bâton, les firent se coucher sur le ventre, la face posée contre les treillages des reins. Ce fut alors que du fond de la place, un homme en robe blanche s'avança. Il perça lentement la foule, et l'on reconnut un prêtre de Tanit, le grand prêtre Shaabarim. Des huées s'élevèrent, car la tyrannie du principe mâle prévalait ce jour-là dans toutes les consciences, et la déesse s'était même tellement oubliée que l'on n'avait pas remarqué l'absence de ses pontifes. Mais l'ébahissement redoubla quand on l'aperçut ouvrant dans les treillages une des portes destinées à ceux qui entreraient pour offrir les victimes. C'était, croyaient les prêtres de Moloch, un outrage qu'ils venaient de faire à leur dieu. Avec de grands gestes, ils essayaient de le repousser, nourris par les viandes des holocaustes, vêtus de pourpre comme des rois et portant des couronnes à triple étage. Ils conspuaient ce pâle eunuque, exténué de macérations, et des rires de colère secouaient sur leur poitrine, leur barbe noire étalée en soleil. Shaabarim, sans répondre, continuait à marcher, et, traversant pas à pas toute l'enceinte, il arriva sous les jambes du colosse. Puis il le toucha des deux côtés, en écartant les deux bras, ce qui était une formule solennelle d'adoration. Depuis trop longtemps, la rabette le torturait, et, par désespoir, ou peut-être à défaut d'un dieu satisfaisant complètement sa pensée, il se déterminait enfin pour celui-là. La foule épouvantée par cette apostasie poussa un long murmure. On sentait se rompre le dernier lien qui attachait les âmes à une divinité clémente. Mais Shaabarim, à cause de sa mutilation, ne pouvait participer au culte du Baal. Les hommes en manteau rouge l'exclurent de l'enceinte. Puis, quand il fut dehors, il tourna autour de tous les collèges successivement, et le prêtre, désormais sans Dieu, disparut dans la foule. Elle s'écartait à son approche. Cependant, un feu d'aloès, de cèdre et de laurier brûlait entre les jambes du colosse. Ses longues ailes enfonçaient leurs pointes dans la flamme. Les onguents dont il était frotté coulaient comme de la sueur sur ses membres d'airain. Autour de la dalle ronde où il appuyait ses pieds, les enfants, enveloppés de voiles noires, formaient un cercle immobile, et ses bras démesurément longs abaissaient leurs paumes jusqu'à eux, comme pour saisir cette couronne et l'emporter dans le ciel. Les riches, les anciens, les femmes, toute la multitude se tassait derrière les prêtres et sur les terrasses des maisons. Les grandes étoiles peintes ne tournaient plus, les tabernacles étaient posés par terre, et la fumée des encensoirs montaient perpendiculairement, tels que des arbres gigantesques, étalant au milieu de l'azur leurs rameaux bleuâtres. Plusieurs s'évanouirent. D'autres devenaient inertes et pétrifiés dans leur extase. Une angoisse infinie pesait sur les poitrines. Les dernières clameurs, une à une, s'éteignaient, et le peuple de Carthage haletait, absorbé dans le désir de sa terreur. Enfin, le grand prêtre de Moloch passa la main gauche sous les voiles des enfants, et il leur arracha du front une mèche de cheveux qu'il jeta sur les flammes. Alors, les hommes en manteau rouge entonnèrent l'hymne sacré. Hommage à toi, soleil! Roi des deux zones, créateur qui s'engendre, père et mère, père et fils, Dieu et déesse, déesse et Dieu. Et leurs voix se perdirent dans l'explosion des instruments sonnant tous à la fois pour étouffer les cris des victimes. Les Cheminites à huit cordes, les Kinors qui en avaient 10, et les Nébals qui en avaient 12, grinçaient, sifflaient, tonnaient. Des outres énormes hérissées de tuyaux faisaient un clapotement aigu. Les tambourins, battus à tour de bras, retentissaient de coups sourds et rapides. Et malgré la fureur des clairons, les salsalims claquaient comme des ailes de sauterelles. Les hiérodules, avec un long crochet, ouvrirent les 7 compartiments étagés sur le corps du Baal. Dans le plus haut, on introduisit de la farine. Dans le second, 2 tourterelles. Dans le troisième, 1 singe. Dans le quatrième, 1 bélier. Dans le cinquième, 1 brebis. Et comme on n'avait pas de bœuf pour le sixième, on y jeta une peau tannée prise au sanctuaire. La 7e case restait béante. Avant de rien entreprendre, il était bon d'essayer les bras du Dieu. De minces chaînettes, partant de ses doigts, gagnaient ses épaules et redescendaient par derrière, où des hommes tirant dessus faisaient monter jusqu'à la hauteur de ses coudes les 2 mains ouvertes qui, en se rapprochant, arrivaient contre son ventre. Elles remuèrent plusieurs fois de suite à petits coups saccadés, puis les instruments se turent, le feu ronflait. Les pontifes de Moloch se promenaient sur la grande dalle en examinant la multitude. Il fallait un sacrifice individuel, une oblation toute volontaire et qui était considérée comme entraînant les autres, mais personne jusqu'à présent ne se montrait. Et les 7 allées conduisant des barrières au colosse étaient complètement vides. Alors, pour encourager le peuple, les prêtres tirèrent de leur ceinture des poinçons et ils se balafraient le visage. On fit entrer dans l'enceinte les dévoués, étendus sur terre, en dehors. On leur jeta un paquet d'horribles ferrailles et chacun choisit sa torture. Ils se passaient des broches entre les seins. Ils se fendaient les joues. Ils se mirent des couronnes d'épines sur la tête, puis ils s'enlacèrent par les bras, et entourant les enfants, ils formaient un autre grand cercle qui se contractait et s'élargissait. Ils arrivaient contre la balustrade, se rejetaient en arrière et recommençaient toujours, attirant à eux la foule par le vertige de ce mouvement tout plein de sang et de cris. Peu à peu, des gens entrèrent jusqu'au fond des allées. Ils lançaient dans la flamme des perles, des vases d'or, des coupes, des flambeaux, toutes leurs richesses. Les offrandes, de plus en plus, devenaient splendides et multipliées. Enfin, un homme qui chancelait, un homme pâle et hideux de terreur, poussa un enfant. Puis on aperçut entre les mains du colosse une petite masse noire. Elle s'enfonça dans l'ouverture ténébreuse. Les prêtres se penchèrent au bord de la grande dalle, et un chant nouveau éclata, célébrant les joies de la mort et les renaissances de l'éternité. Ils montaient lentement, et comme la fumée en s'envolant faisait de hauts tourbillons, ils semblaient de loin disparaître dans un nuage. Pas un ne bougeait. Ils étaient liés aux poignets et aux chevilles, et la sombre draperie les empêchait de rien voir et d'être reconnus. Hamilcar, en manteau rouge comme les prêtres de Moloch, se tenait auprès du Baal, debout devant l'orteil de son pied droit. Quand on amena le 14e enfant, tout le monde put s'apercevoir qu'il eut un grand geste d'horreur. Mais bientôt, reprenant son attitude, il croisa ses bras, et il regarda par terre. De l'autre côté de la statue, le grand pontife restait immobile comme lui. Baissant sa tête chargée d'une mitre assyrienne, il observait sur sa poitrine la plaque d'or, recouverte de pierres fatidiques et où la flamme se mirant faisait des lueurs irisées. Il pâlissait, éperdu. Hamilcar inclina son front. Et ils étaient tous les deux si près du bûcher que le bas de leur manteau, se soulevant de temps à autre, l'effleurait. Les bras d'airain allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple en vociférant « Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs !» Et la multitude alentour répétait « Des bœufs, des bœufs !» Les dévots criaient « Seigneur, mange. Et les prêtres de Proserpine, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient la formule éleusiaque « Verse la pluie, enfante !» Les victimes, à peine au bord de l'ouverture, disparaissaient comme une goutte d'eau sur une plaque rougie, et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Cependant, l'appétit du dieu ne s'apaisait pas, il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains avec une grosse chaîne par-dessus qui les retenait. Des dévots, au commencement, avaient voulu les compter pour voir si leur nombre correspondait au jour de l'année solaire. Mais on en mit d'autres, et il était impossible de les distinguer dans le mouvement vertigineux des horribles bras. Cela dura longtemps, indéfiniment jusqu'au soir. Puis, les parois intérieures prirent un éclat plus sombre. Alors, on aperçut des chairs qui brûlaient. Quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux, des membres, des corps entiers. Le jour tomba. Des nuages s'amoncelèrent au-dessus du bal. Le bûcher sans flamme à présent faisait une pyramide de charbon jusqu'à ses genoux. Complètement rouge comme un géant tout couvert de sang, il semblait, avec sa tête qui se renversait, chanceler sous le poids de son ivresse. À mesure que les prêtres se hâtaient, la frénésie du peuple augmentait. Le nombre des victimes diminuant, les uns criaient de les épargner, les autres qu'il en fallait encore. On aurait dit que les murs chargés de monde s'écroulaient sous les hurlements d'épouvante et de volupté mystique. Puis des fidèles arrivèrent dans les allées, traînant leurs enfants qui s'accrochaient à eux, et ils les battaient pour leur faire lâcher prise et les remettre aux hommes rouges. Les joueurs d'instruments quelquefois s'arrêtaient, épuisés. Alors on entendait les cris des mères et le grésillement de la graisse qui tombait sur les charbons. Les buveurs de jusquiam, marchant à quatre pattes, tournaient autour du colosse et rugissaient comme des tigres. Les yidonim vaticinaient, les dévoués chantaient avec leurs lèvres fendues. On avait rompu les grillages, tous voulaient leur part du sacrifice. Et les pères, dont les enfants étaient morts autrefois, jetaient dans le feu leurs effigies, leurs jouets, leurs ossements conservés. Quelques-uns qui avaient des couteaux se précipitèrent sur les autres. On s'entr'égorgea. Avec des vents de bronze, les hiérodules prirent au bord de la dalle les cendres tombées, et ils les lançaient dans l'air, afin que le sacrifice s'éparpillât sur la ville et jusqu'à la région des étoiles. Ce grand bruit et cette grande lumière avaient attiré les barbares au pied des murs. Se cramponnant pour mieux voir sur les débris de l'Hélépole, ils regardaient, béants d'horreur. Fin du chapitre 13.